Chapitre 2. Monsieur Forestier, s'il vous plaît? Au troisième, la porte à gauche. Le concierge avait répondu cela d'une voix aimable, où apparaissait une considération pour son locataire. Et Georges Duroy monta l'escalier. Il était un peu gêné, intimidé, mal à l'aise. Il portait un habit pour la première fois de sa vie, et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. Il la sentait défectueuse en tout, par les bottines non vernies, mais assez fines cependant, car il avait la coquetterie du pied. Par la chemise, de 4,50 francs achetée le matin même au Louvre, et dont le plastron trop mince se cassait déjà. Ses autres chemises, celles de tous les jours, ayant des avaries plus ou moins graves, il n'avait pu utiliser même la moins abîmée. Son pantalon, un peu trop large, dessinait mal la jambe, semblait s'enrouler autour du mollet, avait cette apparence fripée que prennent les vêtements d'occasion sur les membres qu'ils recouvrent par aventure. Seul l'habit n'allait pas mal, s'étant trouvé à peu près juste pour la taille. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière. Puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. N'ayant chez lui que son petit miroir à barbe, il n'avait pu se contempler entièrement. Et comme il n'y voyait que fort mal les diverses parties de sa toilette improvisée, il s'exagérait les imperfections, s'affolait à l'idée d'être grotesque. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était pas même reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu'il avait trouvé fort bien, fort chic au premier coup d'œil. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que vraiment l'ensemble était satisfaisant. Alors, il s'étudia, comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments, l'étonnement, le plaisir, l'approbation. Et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l'œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. Une porte s'ouvrit dans l'escalier. Il eut peur d'être surpris et il se mit à monter fort vite et avec la crainte d'avoir été vu, minaudant ainsi par quelque invité de son ami. En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit sa marche pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante. Il marchait bien, et une confiance immodérée en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et son désir d'arriver, et la résolution qu'il se connaissait et l'indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en gravissant le dernier étage. Il s'arrêta devant la troisième glace, frisa sa moustache d'un mouvement qui lui était familier, ôta son chapeau pour rajuster sa chevelure et murmura à mi-voix, comme il faisait souvent, « Voilà une excellente invention !» Puis, tendant la main vers le timbre, il sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt, et il se trouva en présence d'un valet en habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans comprendre d'où lui venait cette vague émotion. D'une inconsciente comparaison peut-être entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais, qui avait des souliers vernis, demanda, en prenant le par-dessus que Duroy tenait sur son bras par peur de montrer les taches, « Qui dois-je annoncer ?» Et il jeta le nom derrière une porte soulevée, dans un salon où il fallait entrer. Mais Duroy, tout à coup perdant son aplomb, se sentit perclus de crainte, haletant. Il allait faire son premier pas dans l'existence attendue, rêvée. Il s'avança pourtant. Une jeune femme blonde était debout, qui l'attendait, toute seule, dans une grande pièce bien éclairée et pleine d'arbustes, comme une serre. Il s'arrêta net, tout à fait déconcerté. Quelle était cette dame qui souriait? Puis, Il se souvint que Forestier était marié, et la pensée que cette jolie blonde élégante devait être la femme de son ami acheva de l'effarer. Il balbutia « Madame, je suis... » Elle lui tendit la main. « Je le sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir, et je suis très heureuse qu'il ait eu la bonne inspiration de vous prier de dîner avec nous aujourd'hui. » Il rougit jusqu'aux oreilles, ne sachant plus que dire. Et il se sentait examiné, inspecté des pieds à la tête, pesé, jugé. Il avait envie de s'excuser, d'inventer une raison pour expliquer les négligences de sa toilette. Mais il ne trouva rien et n'osa pas toucher à ce sujet difficile. Il s'assit sur un fauteuil qu'elle lui désignait, et quand il sentit plier sous lui le velours élastique et doux du siège, quand il se sentit enfoncé, appuyé, étreint par ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonnés le soutenaient délicatement, il lui sembla qu'il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu'il prenait possession de quelque chose de délicieux, qu'il devenait quelqu'un, qu'il était sauvé. Et il regarda Madame Forestier, dont les yeux ne l'avaient point quitté. Elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle qui dessinait bien sa taille souple et sa poitrine grasse. La chair des bras et de la gorge sortait d'une mousse de dentelle blanche dont étaient garnis le corsage et les courtes manches, et les cheveux, relevés au sommet de la tête, frisant un peu sur la nuque, faisaient un léger nuage de duvet blond au-dessus du cou. Duroy se rassurait sous son regard, qui lui rappelait, sans qu'il sût pourquoi, celui de la fille rencontrée la veille aux Folies Bergères. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré, qui en rendait étrange l'expression. Le nez mince, les lèvres fortes, le menton un peu charnu. Une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice. C'était un de ces visages de femme dont chaque ligne révèle une grâce particulière, semble avoir une signification, dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque chose. Après un court silence, elle lui demanda « Vous êtes depuis longtemps à Paris ?» Il répondit en reprenant peu à peu possession de lui « Depuis quelques mois seulement, madame. J'ai un emploi dans les chemins de fer, mais Forestier m'a laissé espérer que je pourrais, grâce à lui, pénétrer dans le journalisme. » Elle eut un sourire plus visible, plus bienveillant, et elle murmura en baissant la voix « Je sais. » Le timbre avait tinté de nouveau. Le valet annonça « Madame de Marel. » C'était une petite brune, de celles qu'on appelle des brunettes. Elle entra d'une allure alerte, elle semblait dessinée, moulée des pieds à la tête dans une robe sombre toute simple. Seule une rose rouge, piquée dans ses cheveux noirs, attirait l'œil violemment, semblait marquer sa physionomie, accentuer son caractère spécial, lui donner la note vive et brusque qu'il fallait. Une fillette en robe courte la suivait. Madame Forestier s'élança. « Bonjour, Clotilde. »« Bonjour, Madeleine. » Elles s'embrassèrent. Puis l'enfant tendit son front avec une assurance de grande personne en prononçant « Bonjour, cousine. » Madame Forestier la baisa, puis fit les présentations. « Monsieur Georges Duroy, un bon camarade de Charles. Madame de Marel, mon amie, un peu ma parente. » Elle ajouta « Vous savez, nous sommes ici sans cérémonie, sans façon et sans pose. C'est entendu, n'est-ce pas ?» Le jeune homme s'inclina. Mais la porte s'ouvrit de nouveau et un petit gros monsieur, court et rond, parut, donnant le bras à une grande et belle femme, plus haute que lui, beaucoup plus jeune, de manière distinguée et d'allure grave. Monsieur Walter, député, financier, homme d'argent et d'affaires, juif et méridional, directeur de la vie française, et sa femme, née Basile Ravalo, fille du banquier de ce nom. Puis parurent coup sur coup Jacques Rival, très élégant, et Norbert de Varenne, dont le col d'habit luisait, un peu ciré par le frottement des longs cheveux qui tombaient jusqu'aux épaules, et semé dessus quelques grains de poussière blanche. Sa cravate, mal nouée, ne semblait pas à sa première sortie. Il s'avança avec des grâces de vieux beau et, prenant la main de Madame Forestier, mit un baiser sur son poignet. Dans le mouvement qu'il fit en se baissant, sa longue chevelure se répandit comme de l'eau sur le bras nu de la jeune femme. Et Forestier entra à son tour, en s'excusant d'être en retard. Mais il avait été retenu au journal par l'affaire Morel. Monsieur Morel, député radical, venait d'adresser une question au ministère sur une demande de crédit relative à la colonisation de l'Algérie. Le domestique cria « Madame est servie !» et on passa dans la salle à manger. Duroy se trouvait placé entre Madame de Marelle et sa fille. Il se sentait de nouveau gêné, ayant peur de commettre quelque erreur dans le maniement conventionnel de la fourchette, de la cuillère ou des verres. Il y en avait quatre, dont un légèrement teinté de bleu. Que pouvait-on boire dans celui-là ? On ne dit rien pendant qu'on mangeait le potage. Puis Norbert de Varennes demanda « Avez-vous lu ce procès Gautier ? Quelle drôle de chose !» Et on discuta sur le cas d'adultère compliqué de chantage. On n'en parlait point comme on parle, au sein des familles, des événements racontés dans les feuilles publiques, mais comme on parle d'une maladie entre médecins ou de légumes entre fruitiers. On ne s'indignait pas, on ne s'étonnait pas des faits, on en cherchait les causes profondes, secrètes, avec une curiosité professionnelle et une indifférence absolue pour le crime lui-même. On tâchait d'expliquer nettement les origines des actions, de déterminer tous les phénomènes cérébraux dont était né le drame, résultat scientifique d'un état d'esprit particulier. Les femmes aussi se passionnaient à cette poursuite, à ce travail. Et d'autres événements récents furent examinés, commentés, tournés sous toutes leurs faces, pesés à leur valeur, avec ce coup d'œil pratique et cette manière de voir spéciale des marchands de nouvelles. Des débitants de comédie humaine à la ligne, comme on examine, comme on retourne et comme on pèse chez les commerçants, les objets qu'on va livrer au public. Puis il fut question d'un duel, et Jacques Rival prit la parole. Cela lui appartenait, personne autre ne pouvait traiter cette affaire. Duroy n'osait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la gorge ronde le séduisait. Un diamant, tenu par un fil d'or, pendait au bas de l'oreille, comme une goutte d'eau qui aurait glissé sur la chair. De temps en temps, elle faisait une remarque qui éveillait toujours un sourire sur les lèvres. Elle avait un esprit drôle, gentil, inattendu, un esprit de gamine expérimentée qui voit les choses avec insouciance et les juge avec un scepticisme léger et bienveillant. Duroy cherchait en vain quelques compliments à lui faire, et, ne trouvant rien, il s'occupait de sa fille, lui versait à boire, lui tenait ses plats, la servait. L'enfant, plus sévère que sa mère, remerciait avec une voix grave, faisait de courts saluts de la tête. « Vous êtes bien aimable, monsieur. » Et elle écoutait les grandes personnes d'un petit air réfléchi.